Chapitre 16. Les 15 jours qui devaient s'écouler avant la représentation des deux pièces de Faré furent d'autant plus longs à passer pour Geneviève qu'elle était sûre du succès. Chez elle, c'était article de foi et d'une foi que rien ne pouvait ébranler, ni la peur de l'inconnu, ni les inquiétudes de la solitude, ni même le souvenir de ce qu'il lui avait dit de la mauvaise impression des comédiens. Alors elle pourrait parler et dire enfin à sa tante: « Vous voulez un mari? Voici celui que j'aime. » Et comme M. de Javerlac semblait fortement atteint par le coup qu'elle avait eu la chance de lui porter, ce n'était pas folie d'espérer que sa tante, bon gré mal gré, accepterait ce mari. Bien qu'Adélaïde dût être satisfaite de la leçon que sa curiosité lui avait value, Geneviève crut prudent de ne pas renoncer à sa promenade au bord de la rivière, et tous les jours elle la fit consciencieusement, non seulement après déjeuner, mais encore plusieurs fois par jour, le matin, avant de partir pour la messe, à midi, le soir, aussi souvent qu'elle eut un instant de liberté. De cette façon, Adélaïde serait déroutée sans doute, et comme sa surveillance devrait s'exercer du matin au soir, elle serait bien forcée à la fin de l'abandonner. 15 jours de promenade la lasseraient. Cependant, ils s'écoulèrent ces 15 jours, coupés au milieu par une nouvelle visite de Madame de Javerlac et de son fils, qui, cette fois, n'était pas accompagné du père Élisée. Il sembla, Geneviève, que sa tante se montrait moins bienveillante pour le jeune comte qu'elle ne l'avait été jusqu'alors, en tout cas moins disposée à la mettre en avant et lui adressant, au contraire, de temps en temps, certaines questions sur sa façon de comprendre la vie et d'arranger son avenir, qui l'embarrassait fort, malgré le secours que sa mère lui apportait aussitôt. Geneviève s'était trop bien trouvée de son premier entretien en tête-à-tête avec M. de Javerlac pour ne pas tâcher d'en avoir un second, et, comme de son côté, il paraissait avoir le même désir qu'elle, l'occasion qu'ils cherchaient l'un et l'autre se rencontra assez facilement. Quand elle le vit se promener dans le jardin, pendant que Madame de Javerlac et Mademoiselle de Puy-Laurence étaient enfermées ensemble, elle descendit et le rejoignit. « Si vous saviez, dit-il en venant au-devant d'elle, comme je suis heureux de voir que vous ne me fuyez pas. Au contraire, je vous cherche. »« Oh, mademoiselle, s'écria-t-il en joignant les mains dans un élan d'enthousiasme. Alors, je puis espérer que vous avez réfléchi à ce que je vous ai dit ?»« Beaucoup. » Vous voyez que j'ai déjà commencé à réaliser ma promesse. Le père Élisée est resté au château. Cela n'a pas été facile, mais, je vous l'ai dit, quand je me sens soutenu, j'ai du courage, j'ai tenu bon. J'ai représenté à ma mère que je ne voulais pas avoir l'air d'un petit garçon qui ne peut pas faire 2 pas sans son précepteur, et je l'ai emporté. Ce n'est que le commencement, vous en verrez bien d'autres. Je continue à venir avec ma mère parce que, dans les conditions présentes, cela est plus convenable. Mais cela changera aussi. Savez-vous que ce n'est peut-être pas là un bon moyen pour plaire à ma tante? Qu'est-ce que cela fait, pourvu que cela vous plaise? Cependant, c'est ma tante qui est disposée à ce mariage. Ce n'est pas moi. Je ne vais pas être assez naïf pour lui dire mes intentions. Mais je les lui ai dites, moi. « Vous les lui avez dites ?»« Sans doute. »« Vous lui avez dit qu'une fois mariés, nous ne resterions ni à Cordes ni à Javerlac, et qu'une fois libres, nous nous amuserions rondement, parce que si la vie recluse était chic, elle n'était pas drôle. »« On se dit ces choses-là entre soi, on ne les dit pas aux autres, » s'écria-t-il avec un accent de colère et de reproche. « Ma tante est un autre moi-même. J'aurais été coupable envers elle de ne pas lui apprendre quelle serait ma vie si ce mariage qu'elle désirait pour m'avoir près d'elle se réalisait. Mais cela l'aura exaspérée contre moi. » « Ma tante ne s'exaspère pas. Cela l'a inquiétée, très sérieusement inquiétée. » « Alors, vous l'avez donc fait exprès ?»« Mais oui. » « Est-ce possible ? Oh, mon Dieu !» Ce cri fut si douloureux qu'il toucha Geneviève. Jusque-là, elle avait mené cet entretien presque gaiement, en s'amusant de l'étonnement et de l'embarras de M. de Javerlac. Mais ce n'était plus de l'étonnement, ce n'était plus de l'embarras, c'était un chagrin réel, une douleur sincère et profonde, dont elle ne pouvait plus rire. Il souffrait, le pauvre garçon, non seulement dans son amour-propre, mais encore dans son cœur. « Ne m'accusez pas de méchanceté, dit-elle. Si vous aviez voulu croire mes paroles, quand je vous ai affirmé que ce mariage était impossible, je n'aurais pas répété notre entretien à ma tante. Vous vous retiriez de vous-même, je n'avais rien à dire. Mais vous avez persisté malgré tout. » « J'ai espéré, malgré tout. » En partant, votre dernier mot a été une nouvelle affirmation de vos intentions. Alors, je me suis défendue. « Mais je vous aime, mademoiselle. Était-ce un crime d'affirmer mon amour ?»« Non, sans doute. Mais puisque, malgré ce que je vous ai dit, vous persistiez dans votre projet, j'étais bien obligée de mon côté de persister dans ma résistance et d'employer pour cela les moyens qui s'offraient à moi. » J'ai trouvé celui-là, je m'en suis servi. Je vous fais donc horreur? Je n'ai pas dit cela. Eh bien, alors? Pourquoi voulez-vous m'obliger à vous répéter ce que je vous ai dit, que je n'accepterai pour mari que l'homme que j'aimerai et que je ne vous aime point? Mais vous ne me connaissez pas. Laissez-moi vous voir souvent et alors peut-être pourrai-je vous toucher. « Je ne dis pas par mes qualités et mes mérites, car je ne sais pas si j'en ai qui soit digne de vous, mais par mon amour que j'affirme, lui, et dont je sens la puissance à la douleur que j'éprouve en ce moment où se décide ma vie. De mérite, je n'en ai peut-être d'aucune sorte, mais, vous aimant comme je vous aime, j'aurai quelques-uns des vôtres, puisque ce que vous voudrez que je sois, je le serai, puisque ce que vous voudrez que je fasse, je le ferai. » Je ne vous demande pas d'être ma femme demain ou dans quelques semaines, mais dans quelques mois, quand je me serai fait connaître. » Elle avait cru que c'était fini, et alors elle avait eu un mouvement de pitié. Mais c'était par sa douleur qu'il l'avait émue. Par son espoir, au contraire, il exaspérait. « Il n'y a rien de personnel dans mon refus, dit-elle en l'interrompant. Si je vous dis aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà dit, que ce mariage est impossible, ce n'est pas parce que je m'imagine que vous manquez de telle ou telle qualité. Que vous les acquériez ou ne les acquériez pas, ces qualités, cela ne changera rien à mes dispositions. Mais si je touche votre cœur, vous ne le toucherez point. » Il se débattait désespérément et cependant s'efforçant de se contenir sans laisser échapper un mot qui, 10 fois déjà, lui était monté aux lèvres. Mais il ne fut plus maître de sa volonté. « Alors, vous aimez donc quelqu'un ? » s'écria-t-il. Elle ne répondit pas, mais, un peu pâle, elle le regarda. Devant ce regard, il se troubla. « Pardonnez-moi, dit-il, le désespoir de vous trouver insensible m'a égaré. Je n'ai pas le droit de vous questionner. Ne voyez dans mes paroles qu'un cri de douleur. » Et il se tut, en proie à son émotion, que 2 larmes qui roulaient dans ses yeux trahissaient. Elle avait trop mal réussi en lui témoignant qu'elle compatissait à sa douleur pour oser lui montrer de nouveau de la sympathie. Il souffrait. Sans doute cela était fâcheux. Mais enfin, ce n'était pas sa faute à elle. Et puis, elle n'était pas libre. Elle devait penser à Ernest et n'avoir qu'un souci, celui d'enlever tout espoir à M. de Javerlac. Après un moment de silence, il reprit, comme s'il se parlait à lui-même, « Certainement, j'ai été aveugle, dit-il. J'aurais dû voir que si vous refusiez si obstinément de m'entendre, c'est que votre cœur n'était pas libre. Je le comprends maintenant. Vous ne m'aimez pas, vous ne pouvez pas m'aimer, parce que... » Mais il ne prononça pas le mot qu'il avait sur les lèvres. « Que voulez-vous, mademoiselle ? » reprit-il. « J'ai cru ce qu'on m'a dit. Pouvais-je deviner la vérité ? Je n'ai vu en vous qu'une jeune fille adorable qui pouvait être ma femme. » Je vous ai aimé. Ma mère, votre tante, désirait notre mariage. Je l'ai cru possible et, du jour où je vous ai connu, je n'ai plus vécu qu'avec cette espérance, arrangeant pour vous et pour moi notre vie à deux, une vie d'amour et de bonheur. C'était un rêve. Ah, le réveil est dur !» Sa voix s'arrêta, étouffée dans sa gorge serrée. « Vous avez raison, mademoiselle, de m'enlever toute espérance, car plus je vous verrai, plus je vivrai près de vous, plus je vous aimerai, et dans quelques mois, je souffrirai plus encore que je ne souffre aujourd'hui, sans doute. Je ne vous verrai donc plus, et ces paroles sont les dernières que je vous adresse. Mais avant de quitter cette maison, où je ne reviendrai jamais, Je veux vous montrer quel était, quel est cet amour dont vous ne voulez pas, dont vous ne pouvez pas vouloir. Je vais annoncer moi-même à mademoiselle de Puylaurens que je renonce à ce mariage.
« Vous ferez cela ? » s'écria-t-elle dans un trouble de joie qu'elle ne put dominer.
« Ah, mademoiselle ! » murmura-t-il. Confuse de sa cruauté, elle lui tendit la main. Il la prit et, la serrant dans la sienne qui frémissait, « Si vous pensez à moi, dites-vous que dans ce timide, il y avait un passionné. »